RCF.
Amis auditeurs, auditrices de RCF et de notre émission La vie militaire dans le Cher et le Berry, dans le cadre du Berry se raconte avec Agora Défense. Pour cette troisième émission, avec Loïc Kervran, député de l'Assemblée nationale, la troisième circonscription du Cher, conseiller municipal de la commune d'Orsenay, nous allons revenir à notre cœur de mission et de nos engagements, nous, Agora Défense. Bonjour monsieur le député, bonjour mon cher Loïc. Vous êtes membre de la commission de la défense nationale et des forces armées. Sans trahir des secrets défense, pouvez-vous me décrire que ce qu'est cette commission de la défense nationale? Vous êtes membre de la commission de la défense nationale et des forces armées. Pouvez-vous m'expliquer concrètement ce que c'est? Est-ce que vous avez un droit de regard sur la commande d'armement, d'avions, de missiles? C'est des choses très concrètes. On est bien placé à Bourges pour le savoir, ça. Loïc, monsieur le député.
Alors, bonjour. Alors, effectivement, depuis 2017, depuis mon premier mandat, je suis membre de cette commission de la Défense nationale. En fait, chaque député est membre d'une et d'une seule commission. Il y a 8 commissions permanentes. Nous pouvons aller dans les autres, mais nous n'avons pas le droit de vote dans les commissions pour lesquelles nous ne sommes pas membres. La commission de la Défense nationale, elle a d'abord le rôle d'étudier et de voter le budget des forces armées et de l'industrie de défense. Et évidemment, c'est ce qui nous occupe au premier chef. D'abord, le budget chaque année, mais aussi les lois de programmation militaire. Elle suit aussi l'actualité des questions internationales. Nous recevons très régulièrement le chef d'état-major des armées et puis les chefs d'état-major des différentes armes, le directeur général de l'armement, etc. Et il se trouve qu'au sein de cette commission-là, moi, j'ai un rôle un petit peu particulier puisque j'en suis le vice-président et que donc très régulièrement d'abord je préside la commission puisque le président peut être en déplacement ou empêché.
Qui est le président ?
C'est Thomas Gassiou, le député du Rhône. D'accord. Qui est président depuis juin 2022 de cette commission de la défense nationale.
Est-ce que dans cette commission vous abordez ces questions dont on parle beaucoup actuellement, d'armement, d'équipement, de budget bien évidemment, sachant aussi, et ça faut bien le rappeler, que le budget de la défense nationale a été augmenté de manière plus que substantielle depuis quelques années. Est-ce que vous pourriez nous refaire un petit historique justement de cela?
Peut-être d'abord sur le budget, effectivement, oui. Moi quand j'arrive en 2017, on est à un peu plus de 30 milliards par an de budget. L'année dernière, nous sommes à 47 milliards, donc vous voyez, on a augmenté de plus de 50% oui. le budget en quelques années et on va continuer comme ça sur cette pente jusqu'à plus de 60 milliards, jusqu'à l'avoir doublé. Donc ensuite, effectivement, il y a ce qu'on appelle des rapporteurs budgétaires, ce sont des députés qui ont en charge le budget de l'armée de terre, le budget des services de renseignement, etc. Et qui, à la fois, vont travailler toute l'année pour préparer ce budget et le présenter aux collègues et nous orienter aussi dans le vote qu'on va avoir au moment de la loi de finances. Donc l'idée aussi, la commission de la défense, elle est particulière parce qu'elle est beaucoup moins politique que les autres. L'idée, c'est plutôt d'avoir des députés de tous les bords, derrière nos forces armées, derrière notre industrie de la défense, pour la porter et pour s'assurer que voilà, on a des budgets décents en face.
Il y a une entente entre vos différentes tendances politiques.
Elle n'est pas absolue et puis il y a de vraies différences. Vous prenez le thème de la dissuasion nucléaire par exemple, une partie de la gauche est fondamentalement opposée à l'idée même de dissuasion nucléaire. Alors avec des nuances, certains veulent sortir très vite, d'autres sortiraient s'ils étaient aux responsabilités un peu plus lentement, mais ils restent opposés à cette idée. Sur la Russie évidemment, il y a en ce moment avec le Rassemblement National ou la France Insoumise, qui sont beaucoup plus proches du régime russe, qui sont beaucoup plus sur l'idée de négocier dès aujourd'hui une trêve, ce qui voudrait dire en fait faire renoncer l'Ukraine à une grande partie de son territoire. On a des différences profondes, mais on avance quand même souvent ensemble sur les grandes questions budgétaires de nos armées, sur le rééquipement des armées.
Vous parliez de tensions internationales. Les tensions internationales actuelles, l'Ukraine bien sûr, la bande de Gaza, pour ne citer que les principales. ne sont-elles pas l'éclatement d'un monde où les forces traditionnelles d'équilibre disparaissent au profit de nouvelles? Je pense en particulier à l'ère pacifique, avec la montée de la Chine d'une manière impressionnante, hein, au niveau de sa marine. Monsieur le député.
Oui, le monde a changé. D'abord, il faut dire que le monde est très agressif. On s'en rend pas compte toujours, mais vous savez, moi j'ai passé 5 ans sur les questions de renseignement avec des niveaux d'habilitation jusqu'au très secret défense. Et là, vous réalisez le niveau d'agressivité du monde, d'abord de nos vrais adversaires, qui tous les jours testent nos frontières terrestres, maritimes, navales, qui attaquent nos systèmes informatiques, qui pillent nos entreprises, mais aussi l'agressivité parfois de nos alliés qui, sur des questions économiques, justement sur des questions de prédation industrielle, etc., n'hésitent pas non plus à aller nous voler, à aller affaiblir nos secrets. Donc ça, c'est la première chose à réaliser. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on a aujourd'hui une opposition structurante, je pense, entre les États-Unis et la Chine, qui fait que d'autres zones représentent moins d'intérêt pour les États-Unis aujourd'hui, à commencer par l'Europe, et on voit dans la difficulté là que le Congrès américain a approuvé l'aide ukrainienne. Et puis, moi, je rajouterais à la liste que vous avez mentionnée la question de la mer Rouge, qui pose des menaces très importantes sur le commerce mondial et donc, à la fin, sur notre vie quotidienne. Et il faut rappeler aussi que nos frégates ont tiré des missiles, ce qu'elles n'avaient pas fait depuis très longtemps, pour se défendre contre des attaques ou en tout cas des attitudes de drones extrêmement agressives qu'elles ont dû abattre. C'est dans ce monde-là que l'on évolue et il faut pas reculer et il faut pas avoir peur de l'affrontement dans ce monde-là.
Alors justement, vous y avez fait allusion, monsieur le député, la France puissance nucléaire, est-ce que c'est un moyen de préserver son indépendance ?
Oui, je crois que c'est un moyen d'abord de se protéger, qui est très important, de préserver son indépendance. Mais comme nous le disions à l'instant, dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, la dissuasion nucléaire ne répond pas à tout, ne répond pas à tous les schémas tactiques, puisque on voit bien que nous avons des attaques, que ce soit des attaques physiques, mais aussi des attaques dans le champ de l'information, dans le champ de la cyber, dans l'espace, pour lesquelles d'abord il est très difficile d'attribuer un auteur à cette attaque. Et là, du coup, la dissuasion nucléaire, elle est plus compliquée. Et puis, voilà, vous avez quand même des attaques qui sont de moindre ampleur et pour lesquelles vous n'avez pas déclenché une réponse nucléaire. D'ailleurs, on pourrait se poser la question, même si nos territoires dans le Pacifique étaient envahis, irions-nous réellement jusqu'à bombarder avec une arme nucléaire la Chine, par exemple? Et donc, il faut voir que sur ces questions, la dissuasion, elle ne répond pas à tout. Et donc, c'est pour ça aussi que c'est important d'avoir des forces conventionnelles. Oui. C'est pour ça que c'est important d'avoir des services de renseignement extrêmement efficaces, d'avoir des forces spéciales. Il faut avoir d'autres outils pour répondre aussi à ces attaques qui sont parfois d'un niveau un peu moindre.
Alors justement, vous, monsieur le député, une question qui me taraude. Comment se fait-il qu'on ait quitté l'Afrique de cette manière actuellement? Et ça, véritablement, je ne sais pas si les Français et Françaises en ont bien conscience, mais pour moi, j'estime que c'est une terrible reculade.
Ce qui est important d'abord, c'est qu'on n'a pas quitté toute l'Afrique. Notre point essentiel, notre base essentielle est la plus intéressante d'un point de vue stratégique pour nos opérations, pour nos besoins d'évacuation des ressortissants, pour la question de la mer Rouge, etc. C'est Djibouti.
Djibouti, oui.
Et on reste là et on reste fort. Ensuite, la deuxième chose, c'est que moi, je ne pense pas que nous soyons partis de l'Afrique pour toujours. Je pense que voilà, nous avons des régimes, nous avons aussi, il faut le dire, une attitude de la Russie qui nous attaque et qui fait monter un sentiment anti-français dans un certain nombre de ces pays pour nous gêner à cause aussi de ce que nous faisons en Ukraine, qui a pu déstabiliser un certain nombre de pays et nous conduire à retirer nos soldats. Mais nous sommes encore présents dans les pays les plus importants pour nous et je pense que nous reviendrons et que, par ailleurs, et avec le président de la République, et il l'a exprimé à plusieurs reprises, nous essayons de construire une nouvelle forme aussi de présence et de partenariat, peut-être avec un peu moins de forces armées en premier rideau, mais d'autres manières d'être là.
Il faudrait éviter l'erreur du Second Empire.
Exactement.
L'erreur du Second Empire, est-ce que vous voulez dire quelques mots, simplement pour que les auditeurs comprennent?
Bah, allez-y, je vous en prie.
Alors, le Second Empire avait développé de manière très importante ses puissances coloniales, armées coloniales. Par contre, elle avait négligé les forces armées sur son territoire, ce qui explique malheureusement la cruelle défaite de 1870. Et dans les états-majors, je sais qu'il y a une réflexion qui se monte actuellement pour revenir à un plus grand équilibre avec des forces conventionnelles sur le territoire suffisamment conséquentes, prêtes à intervenir éventuellement.
Et pour compléter peut-être ce que je voulais dire moi sur ce sujet et cet exemple historique, c'est aussi que nous avons une armée de terre en particulier qui s'est construite avec l'Afrique. D'abord d'un point de vue d'entraînement, d'exposition, d'expérience de ces soldats. Mais aussi parfois, il faut le dire, d'un point de vue de rémunération, ça faisait partie de pouvoir aller 4 mois en OPEX aujourd'hui avec la solde. Voilà, ça fait partie aussi de ce qui est offert à nos jeunes. Et donc ce sont des discussions qu'on a eues avec le chef d'état-major des armées. Aujourd'hui, nous avons un modèle où nous payons nos soldats pour ce qu'ils font, y compris des opérations extérieures. Demain, nous allons devoir avoir un modèle où nous payons nos soldats pour ce qu'ils savent faire en cas d'agression majeure, ou d'ailleurs majeure ou moins importante, du territoire français, de nos systèmes informatiques, etc. Et c'est pas tout à fait la même chose. Et donc il y a aussi un petit changement et sortir d'une certaine logique historique.
Alors justement, nous parlions de la menace. Ne faut-il pas envisager, monsieur le député, la réalisation d'une nouvelle communauté européenne de défense qui avait été abandonnée dans les années 50 et que, en particulier, notre président de la République aimerait bien relancer. Mais malheureusement, c'est cette bizarre impression que les pays européens ne sont pas encore prêts à cette communauté européenne de défense. Et pourtant, elle serait nécessaire.
Oui, elle serait nécessaire parce qu'on voit bien que par rapport aux deux grands blocs qui s'affrontent, les États-Unis et la Chine, seuls, nous, France, nous ne pouvons pas tout faire.
Exactement.
Il y a des choses que nous voulons garder, que nous ne voulons pas mettre dans le panier européen, à commencer par la dissuasion nucléaire. C'est quelque chose de profondément national et c'est à nous de définir nos intérêts vitaux. Et ça restera toujours à nous de décider quand est-ce que l'on utilise cette arme ultime. Mais sur les questions d'industrie, sur la mutualisation de nos forces spéciales, sur le travail au conjoint. En ce moment, il y a un exercice très important, justement, de lutte dans le froid, dans le nord de l'Europe, avec beaucoup de nations. Et voilà, tout ça, il faut apprendre à le faire. Mais aussi sur nos grandes questions d'infrastructure. Comment est-ce qu'on peut amener des blindés rapidement sur la frontière Est? Ça, la France peut pas le faire toute seule. Il faut une réflexion européenne sur ces questions-là. Et donc là, il n'y a que l'Europe de la défense qui pourra apporter un certain nombre de réponses.
L'ultime question... Monsieur le député, la France possède-t-elle les forces morales pour affronter un conflit armé de haute intensité?
Je le crois et je vais vous dire pourquoi. Je sais, je comprends les doutes, mais je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec Étienne de Poncin, notre ambassadeur français en Ukraine. Il me racontait la chose suivante. Il avait beaucoup de mères, de ville ukrainienne, mais plutôt dans la partie russophone et russophile, qu'il voyait et qui lui parlait en russe. Et du jour où l'Ukraine a été attaquée, ces mêmes mères, qu'il continuait à recevoir, lui parlaient ukrainien. Et il disait que c'était incroyable, puisque c'était des gens russophones, russophiles, etc. Mais quand la nation est attaquée, finalement tout le monde, et ça a entraîné ce réaffermissement des forces morales, ce réaffermissement patriotique. Et moi je pense, et quand je vois ce qui s'est passé au moment malheureusement des attentats, etc., je crois qu'on a ce ressort-là. Et que parfois, les prises de position des uns et des autres, en période de paix, le luxe qu'on peut se donner à critiquer telle prise de position du président de la République, à dire ci ou ça, voilà, n'est pas complètement à la hauteur et surtout serait un peu différent si nous étions réellement attaqués.
Merci, monsieur le député. Merci, mon cher Loïc, pour cette réflexion sur la politique un peu extérieure, sur ces grands enjeux de notre monde. Merci à vous, fidèle auditeur, auditrice de RCF, dans le cadre du Béris Raconte avec Agora Défense. Bonne semaine et à très bientôt pour une nouvelle émission. Merci Loïc encore. Merci beaucoup.
Merci.